menu de notre club aujourd'hui, des lapins qui gambadent par millions, les clés pour acquérir une mémoire infaillible et puis le bicentenaire de la naissance du père du petit Larousse illustré, tour de table avec mes invités dans un instant. À la une de la science, aujourd'hui nous revenons sur cette découverte majeure autour d'une grotte du Tarn-et-Garonne occupée il y a très longtemps par Néandertal. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu, et oui, depuis hier, ces centaines de stalagmites cassées et méthodiquement rangées au fond de la grotte de Bruniquel font rêver tous les scientifiques. Une découverte intrigante et importante à la une.
C'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de notre club. Aujourd'hui, dossier préparé par Emmanuel Fournier avec Dylan Beiner.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Des lapins, une mémoire en béton et le père du petit Larousse illustré. Voilà donc les sujets de notre dossier avec mes invités. Anne de Malrais, Stéphane Marchandeau, Sébastien Martinez, Elisa Wenger et Bernard Cerchilini. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Bienvenue. Bernard Cerchilini, est-ce que 2017 a été une bonne cuvée pour les nouveaux mots dans le petit Larousse?
Une très bonne cuvée, je crois, fidèle à ce très jeune bicentenaire qui est Pierre Larousse. Je crois qu'il serait très content de nous. Nous avons bien choisi les termes.
Vous êtes content de vous,
oui, ils sont conformes à son esprit, certainement.
On en parle avec vous, bien sûr, dans un instant. Une revue entièrement dédiée aux lapins. Quelle drôle d'idée, Anne de Malrais. Hein.
Et oui, quelle drôle d'idée. Mais quand on s'intéresse aux bestiaires, en général, on pense toujours à l'ours, au loup, aux animaux emblématiques. Mais le lapin, derrière son insignifiance, en fait, est un très bon sujet pour penser nos relations à la nature.
Ouais, alors c'est une revue, hein, Bilbo, oui. Justement consacrée donc cette fois-ci aux lapins. Sébastien Martinez, vous y avez participé. Stéphane Marchandeau, pardon. Est-ce que les relations entre les hommes et les lapins se sont un petit peu améliorées ou pas?
Oh, elles ont toujours été conflictuelles, donc il y a toujours eu des pros lapins et des gens qui voient le lapin d'un regard un petit peu plus distant et un peu plus circonspect, on va dire.
Votre sujet de recherche, c'est le lapin de Garenne. Hein.
Lapin de Garenne, voilà. Ouais.
Sébastien Martinez, c'est bien vous qui avez une bonne mémoire. Vous en détenez tous les secrets aujourd'hui, à peu près?
Oh, j'ai des stratégies, oui. Et ce qu'on va voir surtout, c'est que la mémoire, ça s'apprend. Il y a vraiment deux secrets. C'est un, connaître les stratégies, et deux, s'entraîner.
Et bon, on va s'entraîner peut-être avec vous, comme vous l'avez fait d'ailleurs, Elisa Wenger. Hein. Vous avez testé en fait les méthodes de Sébastien pour le livre.
Eh oui, en premier.
Ouais. Ça fonctionne bien alors ou pas?
Eh bien, ça fonctionne très bien.
Vous êtes convaincue?
Je ne l'étais pas au départ, et alors je l'ai été en une heure d'entraînement.
Ouais, donc, meilleure mémoire aujourd'hui, on va en discuter avec ce livre qui sort aux éditions Premier Parallèle. On se retrouve tous dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. L'homme de Néandertal qui n'en a pas fini de nous surprendre, de nouveaux secrets sur ses capacités se cachent très certainement dans ces étranges constructions de stalagmites découvertes au fond de la grotte de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne. Jacques Jaubert et Dominique Gentil, bonjour, vous êtes avec nous en ligne.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes avec Sophie Verheyden, donc les trois auteurs principaux de cette étude parue dans la revue Nature. Jacques Jaubert, vous êtes préhistorien à l'Université de Bordeaux et Dominique Gentil, paléoclimatologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la datation des stalagmites. Alors Dominique Gentil, à quoi ressemblent d'abord ces mystérieuses structures, ces spéléofacts comme vous les appelez?
Alors en fait, ça ressemble à des cercles. Il y a une grande structure, hein, un cercle qui fait 5-6 mètres de diamètre. Et vous imaginez donc des tronçons de stalagmites alignés, superposés au fond d'une grotte. Voilà, donc ça ressemble à ça. Il y a deux grandes structures annulaires et puis à côté et au centre des petites structures qui sont des amas plutôt de stalagmites.
À quelle distance de la sortie se trouve justement cette structure?
Alors elle se situe à environ 300 mètres de l'entrée actuelle. Voilà.
Le tour de force de votre travail a été de dater précisément ces structures, moins 175 000 ans. Comment est-ce que vous avez fait, Dominique Gentil?
Alors en fait, nous avons carotté, donc effectué, extrait des échantillons sur la structure. Donc nous avons eu la chance que cette structure, elle est composée de calcite, donc de stalagmites composés de calcite, et c'est un matériau qu'on peut dater par des méthodes radiométriques. Donc on a daté les repousses de stalagmites qui ont poussé sur la structure, qui ont donné un âge minimal, et puis on a daté aussi, au sein même de la structure des stalagmites, les sommets des stalagmites, qui ont donné un âge maximal. Et on a eu une fourchette d'âge qui était tout à fait cohérente et qui a donné 176 000 ans.
Et Jacques Jaubert, compte tenu de l'âge, les seuls auteurs possibles, c'est les Néandertaliens?
Oui, sans hésiter, parce que tout simplement en Europe, enfin en Eurasie à ce moment-là, donc de l'autre côté de la Méditerranée, face à l'Afrique, il n'y a qu'une seule humanité, il n'y a qu'une seule espèce, ce sont les Néandertaliens, c'est la lignée néandertalienne, qui a pris corps vers à peu près 500 000 ans et qui a disparu vers 45-50 000 ans avant le présent.
Ça a été une surprise énorme pour vous, cette datation, et justement, imaginez que Néandertal avait pu déjà à cette époque construire de telles structures.
Oui, tout à fait, parce que je vais vous faire une confidence. J'ai visité et j'ai même expertisé la grotte peu après sa découverte, dans les années 90, et nous avions fait des paris où on devinait que ces structures pouvaient être anciennes. On pensait à un âge 20 000 ans, 25 000 ans, 30 000, 40 000. Une première date a été obtenue supérieure à 47 000 ans, qui est passée un peu inaperçue.
Ouais.
Et quand Sophie m'a téléphoné, Sophie Verheyden, que vous avez mentionné, m'a téléphoné les résultats, j'étais en vacances en Italie, et elle m'a téléphoné ses résultats, et on était complètement stupéfaits. Ouais, parce que là, franchement, c'est un résultat qui dépassait nos espérances.
Aucune erreur possible dans vos calculs ?
Mais ça, il faut demander à Dominique.
Non, en fait, on a la chance, comme je vous l'ai dit, d'avoir un matériau qui était datable. On a pu encadrer l'âge de la structure, l'âge minimal et maximal, qui était dans la même marge d'erreur. Et c'est une méthode qui est prouvée, et on a fait plusieurs analyses sur plusieurs échantillons, donc là, j'ai vraiment très sûr.
Alors Jacques Jaubert, la présence de ces spéléofacts, qu'est-ce qui nous enseigne de nouveau sur les Néandertaliens ? Parce que là, on parle de plein de nouvelles choses.
Oui, pour moi, ce qui vient en tête des nouveautés, c'est l'appropriation du monde souterrain. Le monde souterrain, le monde des grottes profondes, c'est un monde qui est difficile, qui est obscur, qui peut être dangereux. On peut y faire des rencontres difficiles, comme des animaux, l'ours notamment. Et cette appropriation de ce monde difficile, jusqu'à présent, c'était le fait de l'homme moderne. C'est le conteur resté bloqué sur les premières grottes ornées avec des dessins, des peintures comme Chauvet. Et voilà, Chauvet ou des sites contemporains, parce qu'on cite toujours Chauvet, mais il y a d'autres cavités comme Alden par exemple dans l'Hérault. Là je reste bloqué vers 36, 37, 38 000 ans. Et là d'un seul coup on est à 175, 176 000 ans. On bascule sur une autre humanité. Voilà.
Beaucoup d'informations aussi concernant la maîtrise du feu.
Oui, alors le feu est connu depuis longtemps, plusieurs centaines de millénaires. Les sites les plus sûrs avec le feu, c'est au Proche-Orient, vers 700 000 ans. En Europe, on a plusieurs sites avec du feu, Terra Mata, Bilsinsleben et d'autres vers 300 000 ans. Mais en fait, le feu se généralise dans les sites archéologiques un petit peu plus tard, vers 200, 150 000 ans. Comme par hasard à l'époque de Bruniquel, ce qu'on appelle le paléolithique moyen et dans sa période ancienne. Et le fait d'avoir pas mal de traces de feu à Bruniquel, pour nous c'est très important bien sûr, pour démontrer le caractère anthropique des structures.
Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans cette grotte alors, les Néandertaliens ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer alors de leur volonté d'aller si loin dans un endroit quand même peu accessible et dangereux comme vous le disiez ?
Écoutez, ça fait plusieurs jours que je réponds, que j'essaye, que nous essayons de répondre à cette question,
ouais.
Et on s'en tire par une pirouette. On est dans une première phase de l'étude. Hein. On a fait une étude à distance. On a échantillonné grâce à Dominique, Sophie. On a pu dater. On l'a décrite. On a une photogrammétrie. Ok, mais on n'a pas encore eu accès au sol archéologique, donc on n'a pas de vestiges contemporains, on a très peu d'éléments sur cette structure, en dehors des éléments qui la constituent. Donc voilà, ça c'est plutôt une étape future de la recherche. Alors après, par élimination, il y a bien quelques hypothèses qu'on peut déjà un peu écarter. Moi je crois pas trop à un habitat-refuge, par exemple.
Dominique Gentil, pour en savoir plus, est-ce que vous avez prévu d'aller creuser sous la calcite, de peut-être démonter une partie de la structure ?
Ben écoutez, ça serait une éventualité. Après, la structure et toute la grotte va être protégée, donc les opérations d'archéologie vont être bien contrôlées. Et effectivement, ça serait très intéressant de voir si sous le plancher qu'il y a au centre de la structure, on peut éventuellement trouver des traces, des empreintes, qui sait.
En tout cas, une très belle découverte et qui réécrit quand même une partie de l'histoire de Néandertal. Hein. Il faudra maintenant évidemment en prendre compte et c'est ce que vous avez fait en découvrant donc la datation de cette grotte, 175 000 ans, Jacques Jaubert, Dominique Gentil et Sophie Verheyden, hein, parce qu'il faut la citer aussi, évidemment. C'est elle qui vous a embarqué dans cette grotte. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages et puis on consacrera une émission très prochainement à Néandertal pour revenir justement sur ses capacités qui n'en finissent pas de nous surprendre. Merci beaucoup, bon week-end Axel.
Bon week-end Mathieu.
Et à lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, moins vieille mais toujours souterraine justement, plus de 70 figures préhistoriques viennent d'être révélées sur les parois d'une autre grotte, Atxura, dans le Pays Basque espagnol. Des chevaux, des cerfs, des orogues, des créatures hybrides, des bisons, les œuvres d'art pariétal décelées dateraient d'environ 14 000 ans pendant la période magdalénienne. Connue des scientifiques depuis 1929, la caverne était inaccessible et seuls quelques spéléologues ont pu s'y aventurer. Ces gravures se situent à plus de 300 mètres de l'entrée. Elles sont distribuées sur une centaine de mètres. Un projet scientifique de 3 ans a été programmé justement pour poursuivre les recherches. Des recherches publiées également dans la revue PLOS ONE qui ont récemment mis en évidence des comportements homosexuels chez des femelles gorilles des montagnes. Ces ébats avaient déjà été observés dans les années 80 par la primatologue Diane Fossey. 30 ans plus tard, les scientifiques estiment que ces actes ne représentent ni un comportement de domination, ni un rituel d'initiation, et qu'ils ne visent pas non plus à résoudre certains conflits. Reste donc l'excitation sexuelle. Pour les auteurs, les femelles gorilles cherchaient tout simplement, ou chercheraient tout simplement, le plaisir. Et puis pour finir, une nouvelle espèce de fourmi, appelée communément fourmi licorne, qui vient d'être découverte dans des morceaux d'ambre dans le nord de la Birmanie. Selon une étude publiée dans Current Biology, cette grande fourmi qui mesurait 1 cm de long vivait il y a 99 millions d'années. Et cette fourmi possédait une corne épineuse qui surplombait sa tête et qui servait probablement de fonction sensitive pour évaluer les proies et peut-être même les stabiliser par friction avec les épines. Une découverte surprenante puisque cet arsenal semble très évolué pour une espèce aussi ancienne. Allez, le club des têtes au carré dans un instant avec vos messages. Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. PJ Harvey à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Et sur dans notre club, oui, sur France Inter, les nouveaux mots du Petit Larousse, une revue dédiée aux lapins et les secrets de la mémoire. On ira également faire un saut à Nancy à l'occasion du festival du film de chercheurs. Bernard Sequilini, on va commencer avec vous. Vous faites un métier formidable parce que hors antenne, là encore, on est en train de discuter. Vous étudiez quoi en ce moment? Les tronçons-cations?
Les troncations bisyllabiques.
Troncations.
Vous avez dit un coup de bigot.
Oui.
En bigophone.
Voilà. Quand Axel Villard est sorti du studio, je lui ai demandé de passer un coup de bigot à notre assistante.
Certes, on l'a toujours fait. Le ciné, le métro, mais en ce moment, ça explose. Voilà. J'ai entendu l'autre jour un cassos pour un cas social. Oui.
Ouais. Donc ça, ce sont des mots qu'on coupe.
Le français va devenir une langue formée de mots de deux syllabes.
Ouais. Et vous écrivez un dictionnaire là-dessus?
Oui. Je pense à faire une collection.
D'accord.
Pour voir les tendances et la façon dont ça se présente.
Bon, ben, si on a des idées, hein, on vous passe un petit message.
S'il vous plaît,
petit message.
Que les auditeurs m'en envoient, je les accueille volontiers.
On commence aujourd'hui donc avec l'édition 2017 du Petit Larousse illustré. Donc vous êtes linguiste, Bernard Sequilini, conseiller justement pour ce dictionnaire. Et 2017, donc c'est l'année du bicentenaire de son créateur Pierre Larousse. Qui était ce monsieur dont le nom est devenu évidemment extrêmement célèbre?
C'était un jeune homme. Il a deux siècles.
Il est resté toujours.
Mais c'est un homme admirable. Vous rendez compte, quelqu'un aussi moderne qui pourtant a été écolier sous Louis XVIII et a fait ses études sous Louis Philippe. C'est quelqu'un qui était instituteur et qui a décidé de devenir pédagogue de toute une nation. d'enseigner le savoir. Pourquoi ? Parce que c'est un homme des Lumières et surtout un fils de la Révolution. Il y a un avant, il y a un après. Larousse est rationaliste, laïque, un homme de progrès, de savoir, et il pense qu'il faut consolider la révolution, la liberté, par le savoir. Science et progrès, progrès par la science.
Oui. Jean d'Ormesson, c'est le parrain justement de cette nouvelle édition. Hein, on l'écoute, il nous dit quelques mots justement sur le personnage de Pierre Larousse.
Ce qui est le plus extraordinaire chez Pierre Larousse, c'est cette capacité de travail stupéfiante. Il a été un grand grammairien, un grand lexicographe et l'auteur d'une œuvre prodigieuse qu'il a accomplie en, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Le Larousse, c'est un dictionnaire encyclopédique. Vous pouvez, si vous vous servez bien du Larousse, oserais-je le dire, vous avez à peine besoin de Google.
Voilà. Est-ce que tout le monde autour de la table a eu son petit Larousse ? Tiens, notre champion de mémoire, par exemple, Stéphane Martinez, est-ce que ça vous a aidé, le petit Larousse ?
Ça m'a aidé
à apprendre des mots, évidemment.
Oui, on va dire quand j'étais en primaire, oui. Maintenant, c'est que je l'utilise assez peu, hein, pour être franc avec vous. Je l'ai à la maison, mais c'est plus un objet de collection.
Donc vous l'avez quand même, oui. Stéphane Marchandeau, hein, vous me disiez
oui,
tout
moi,
à l'heure.
Bah, j'en ai eu un quand je suis rentré en sixième, et je l'ai toujours dans mon bureau, et j'y fais référence de temps en temps.
Ouais, Anne de Malraix, est-ce que vous l'avez aussi, votre dictionnaire
moi,
à la maison ?
Moi, je l'ai, oui. Je connais quelqu'un qui m'a raconté qu'il apprenait le dictionnaire un mot par jour quand il était petit.
Ah oui, vous avez essayé ça, Elisa Wenger, vous qui maintenant avez les bonnes méthodes pour avoir une meilleure mémoire ?
Écoutez, moi, j'ai essayé avec un autre, pas pour moi, mais j'ai essayé avec mes enfants. J'ai essayé de leur faire apprendre les mots du Robert, désolé. C'était le voilà du petit Robert. Il y a une application du Dixel et c'était un mot au hasard et on apprenait ça. Bon, ça n'a pas duré très longtemps.
Ouais. Il éditait des livres scolaires, ce Pierre Larousse.
Il a commencé par des livres. Quand il a quitté son poste d'instituteur dans son village, Toussy, il a commencé à publier une lexicologie, une revue et un petit dictionnaire de français, et puis s'est lancé dans ce grand dictionnaire universel en 17 volumes qu'il a pratiquement rédigé seul.
Ah oui, c'est ça, donc c'était 17 volumes au départ.
15 de son vivant, 2 posthumes, 20 000 pages, écrites par lui, ou au moins corrigées, relues par lui, c'est gigantesque.
Une force de travail exceptionnelle.
Une force de travail, mais par ailleurs c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, il est bourguignon, hein. Je parle de lui au présent, vous voyez, il est bourguignon, il aimait beaucoup boire, manger, recevoir des amis le soir, il s'amusait, il se détendait. C'est un homme très, très chaleureux.
Et alors, de 17 volumes, on est passé à ce petit Larousse. C'est la raison pour laquelle le titre est le suivant. Avec les illustrations qui sont arrivées tout de suite dans cette nouvelle formule ou pas ?
Alors, le petit Larousse date de 1905, donc 30 ans après la mort de Pierre Larousse. Mais fidèle à Pierre, c'était une encyclopédie. Il y a les noms propres et les noms communs, de l'illustration, à l'époque ce sont des gravures en noir et blanc, et un outil complet encyclopédique. Il faut bien voir que l'idée de Larousse, c'est la pédagogie en général. Donc on part de la langue, mais pour aller vers le monde, et surtout pour transmettre des valeurs, j'insiste, la République, la laïcité et la croyance à la libre pensée.
Et cette devise, je sème à tout vent, hein, qui reste évidemment, qui est toujours là.
Qui est très belle et qui pourrait être très bien une définition du numérique. Larousse aujourd'hui aurait des téléphones, des tablettes. D'ailleurs, le petit Larousse a une forme numérique, bien sûr, c'est normal.
Ouais. Alors justement, est-ce que ça a beaucoup changé depuis l'arrivée massive d'Internet et nos réflexes maintenant d'aller vérifier des mots plutôt sur un ordinateur que dans un dictionnaire comme celui-là ? Parce que c'est vrai qu'on a toujours acheté ce dictionnaire pour le mettre dans notre bibliothèque. Est-ce que les ventes ont beaucoup changé depuis ou pas ?
À peine. On se rend bien compte maintenant que les deux lectures sont complémentaires. Nous avons le livre que nous feuilletons, que nous lisons de certaines façons, c'est le petit Larousse imprimé, et puis le numérique, c'est un contenu solide que nous consultons sur le téléphone et la tablette. Les deux sont complémentaires. Sur la tablette, sur l'ordinateur, il y a beaucoup plus de contenu, il y a des images, l'INA nous a fourni beaucoup de choses, mais ce sont deux choses complémentaires. Le réflexe d'ouvrir le petit Larousse, de chercher un mot, et puis d'en trouver un autre, et puis de bondir, et une demi-heure après de lever la tête en se rendant compte que nous avons voyagé dans la langue, reste une chose tout à fait quotidienne.
Comment un mot entre dans le dictionnaire, s'il vous plaît, Bernard Cerchinini? On parlait de notre championne du monde de boxe, hein, qui fera peut-être son entrée, on ne sait pas, l'année prochaine ou dans les années qui viennent.
Pour l'espérer.
Un mot comme bibaud, par exemple, puisque c'est le nom de votre revue, Anne de Malraix, ne figure pas encore dans le petit Larousse, alors qu'il est dans le Littré, par exemple.
Oui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il est encore dans le littré. Bigbaud est un vieux mot qui signifie le désordre. Faire de la bigbaud, d'où chasser la bigbaud à la fantaisie, c'est un mot qui a pratiquement disparu à la fin du XVIIIe siècle. Il est dans le littré, car c'est un dictionnaire des XVIIe et XVIIIe, mais il n'était pas question de le faire entrer. Il est peut-être dans le grand Larousse en 19 volumes, mais dans le petit en 1905, c'était plus nécessaire de le mettre. Mais peut-être que grâce à votre revue, nous y reviendrons. Je vais plaider pour cela.
Peut-être. Et je précise que ça n'est pas une revue sur le désordre.
On n'en parle pas. Dit. Non.
Alors finalement, l'entrée d'un mot, ça se passe comme ça. Il suffit de croiser quelqu'un, par exemple, et puis vous dites, bah oui, c'est vrai, ce moment, donc vous en discutez en comité, comment ça se passe l'arrivée ou la sortie d'ailleurs d'un mot dans le dictionnaire?
D'abord, il y a très peu de sorties. Contrairement à ce qu'a fait croire Georges Perec dans La vie mode d'emploi, il n'y a pas de tueurs de mots, parce que les mots font partie du patrimoine, on les trouve dans des textes pas forcément anciens, donc nous essayons d'en conserver le plus possible en accroissant grâce à la typographie.
Quels sont les derniers sortants alors, s'il fallait en retenir un?
Alors, les mots... Quand un mot disparaît, c'est à l'occasion des refontes. La dernière refonte date d'il y a quelques années et nous avons tué le verbe minitaliser.
Qui vient du Minitel.
Ben oui, nous avons laissé Minitel parce qu'il est dans la littérature en quelque sorte. Mais nous avons pensé que tout le monde comprendrait ce que veut dire minitaliser.
D'ailleurs, est-ce que c'est un mot qui a beaucoup été utilisé? Ça peut en fait.
Pas beaucoup, mais on le trouve encore dans des revues, donc laissons-le. Pour
le Minitel est resté, hein, oui, bien sûr, mais le verbe par contre...
Non, il n'a d'ailleurs pas pris, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis fin à sa souffrance.
Il n'y a pas eu de cérémonie particulière.
Non, mais c'est toujours un chagrin. Alors maintenant, pour la rentrée des mots, eh bien écoutez, c'est une longue discussion. Cette année, il y avait à peu près 400 mots vraiment intéressants. Et de la place pour 150. Donc c'est un régime d'assemblée. On discute, on vote, il y a des négociations de couloirs. Tu votes pour mon mot, je te vote pour le tien.
Parce c'est une bataille. Il faut défendre son mot.
Naturellement, le spécialiste de l'informatique dit, mais écoutez-moi, c'est l'informatique, donc j'en impose 50. Le spécialiste de médecine dit, non, moi j'en veux 300. Et donc, finalement, nous tranchons, et comme je suis conseiller, j'aide la direction à choisir. C'était pas commode.
Ça veut dire
certains vont tenter leur chance l'an prochain.
Donc, 150 possibilités chaque année. Ça veut dire que, de toute façon, dans les prochaines décennies, le Petit Larousse va augmenter de volume, forcément?
Oui, certainement. Ouais. Certainement. Dans quelques années, nous ferons une refonte et nous ferons disparaître quelques mots. Mais pour l'instant, il faut jouer sur la typographie, sur les espaces, car il y a... La langue française produit beaucoup de mots, et de très bons mots, très utiles, en particulier dans le domaine des sciences et des techniques qui est le nôtre. Il faut en tenir compte et les adopter.
Alors, les nouveaux mots scientifiques, par exemple, de cette année, Bernard Sacchinini?
Il m'intéresse en tant que linguiste, c'est-à-dire qu'on dit souvent que l'anglais forme des mots très aisément et que c'est sa vertu. C'est une des vertus de l'anglais, bien sûr. Mais le français forme des mots aussi, grâce à ce mécano extraordinaire que sont les préfixes et les suffixes. Ça marche très bien. Tumeur, tumoral, voilà l'adjectif. Et puis on dit antitumoral, et voilà un bel adjectif.
C'est un des nouveaux mots.
Oui, antitumoral, qui fait son entrée. L'adjectif antitumoral, c'est très bien, contre les tumeurs.
Il y a nanomédecine aussi, je crois, qui vient de débarquer.
Nano est un préfixe extrêmement intéressant. Nous avons fait rentrer l'an dernier nanotechnologie.
Ouais.
Et nanomédecine, je pense qu'il y aura toute une famille dans le dictionnaire bientôt grâce à nano. Cyber, cette année, ce n'est pah nécessaire. Nous allons faire rentrer tous les cyberespaces, cybercriminalité.
Là, vous avez fait un prix de groupe.
Moi j'aime bien les familles en général, surtout lexicales. Ouais. Donc, je pousse à l'entrée de préfixes et de suffixes pour montrer que la langue est vivante et qu'elle peut former des mots et qu'il n'est point nécessaire d'aller les emprunter à l'anglais.
Alors c'est ça. Sauf que une langue vivante, justement, c'est quand même une langue qui reste ouverte aux autres pays et à la francophonie quand même en particulier. Donc là, il y a tous nos cousins suisses, québécois, dont on s'inspire aussi pour ces entrées.
Bien sûr, tous les ans, nous faisons rentrer des mots du français universel. Il y en a environ un millier déjà dans le Petit Larousse. Ils sont très bien. Cette année, par exemple, nous avons fait rentrer ambianceur et ambiancé. Vous savez, c'est un grand mot de l'Afrique.
C'est vrai.
L'ambiance est toujours positive en Afrique, c'est la soirée, c'est la fête. Ouais. On ambiance grâce aux ambianceurs, ça c'est un très beau mot.
Le balado qui est venu du Québec aussi pour... c'est quoi, c'est pour le podcast?
Alors ça c'est intéressant parce que ça permet de montrer que l'on peut se déprendre d'un mot anglais. Donc c'est balado pour podcast.
Ouais.
Nous avons essayé cette année de témoin qui pourrait remplacer cookie.
Oh là, oui.
J'aime beaucoup témoin.
Alors ça c'est audacieux parce que c'est pas du tout dans le langage commun.
Non. Mais il faut aussi être un peu audacieux.
Donc il y a ce travail aussi, d'essayer d'imposer des mots.
Discrètement. Ouais. Témoin a été attesté, ouais. Il est officiel en France, il est astucieux, il est bien. Et puis moi, ça m'amuse parce que les systèmes demandent actuellement d'effacer les cookies. Ils vont bientôt demander d'éliminer les témoins, comme à Palerme ou à Naples.
Bon, et puis des IP, par exemple, autre mot.
Il a moins ma faveur, parce que c'est quand même un anglicisme. Enfin, ça se dit au Québec, zipper des IP, donc nous l'avons bien.
Sébastien Martinez, est-ce que vous avez retenu les mots scientifiques qui ont fait leur entrée dans le Larousse 2017? On va tester votre mémoire. Ça, je suis vache parce qu'on ne vous avait pas prévenu.
C'est une très bonne question et c'est bien, comme ça illustre très bien mon propos. Il faut vraiment être motivé, être attentif et avoir un intérêt pour un sujet, pour faire rentrer une information. Donc là, clairement, j'ai vraiment été très intéressé par toutes les données. Et comme il y a beaucoup d'informations, je n'ai pas mémorisé les mots. Qui ont été donnés.
Bon, et ben on y reviendra. Là. On va vous l'offrir alors plutôt ce
Larousse 2017
pour
avec grand plaisir.
Et puis on parle bien sûr de vos méthodes dans quelques minutes et également de Lapin avec cette revue Billboard. Sur les berges, minuit à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Oh, ça fait du bien, ça.
Avec Mathieu Vidard.
On va vous escorter, c'est plus de temps. On les escorte, on y va, on les escorte, allez.
Sur France Inter.
dans notre club cet après-midi. Également une revue entièrement consacrée aux lapins. Et c'est la revue Billy Boat qui sort son 8e numéro. Anne de Malray, vous êtes donc la rédactrice en chef de cette revue. Vous animez également des débats au musée de la chasse et de la nature sur les usages et les représentations de la nature. Et puis à vos côtés, Stéphane Marchandeau. Vous, vous êtes ingénieur à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Vous dirigez l'équipe Lapin de Garenne. Vous menez des études sur quoi exactement? Quelle recherche est-ce que vous menez?
Les recherches qu'on mène visent à essayer de développer des outils de gestion de ces espèces qui sont exploitées par la chasse. Donc on fait un métier un petit peu similaire à celui de l'Ifremer. Mmh. Donc voilà, donc ça passe par des recherches très fondamentales sur le fonctionnement des espèces dans leur milieu, parce que pour bien gérer, il faut bien comprendre. Donc on est obligé de jongler entre les deux, le très pratique et le très fondamental.
Donc le lapin, véritable sujet d'étude, et le lapin de Garenne. Hein.
Un énorme sujet d'étude, parce que... C'est une espèce qui est sensible à certains virus qui apportent des sujets d'études très particuliers, vu leur impact sur les populations.
Ouais. Myxomatose, entre autres.
Myxomatose, entre autres, mais il y en a un autre.
On va en parler un peu avec équivalent. Vous. Un mot d'abord sur cette revue, Anne de Malray, Billy Baud. Hein, donc, on le disait tout à l'heure, ce mot très particulier, hein, qui fait référence à la chasse et au fait, justement, de tirer à sa fantaisie, hein, c'est ça? Donc, quel est le principe et l'idée de votre revue?
Alors le principe de cette revue, c'est de proposer en fait une démarche un peu exploratoire de terrain et de réflexion sur la nature, qui part du principe que on connaît de moins en moins bien la nature, mmh. alors que c'est par ailleurs un sujet auquel de plus en plus de gens sont sensibles. Et donc le projet de cette revue, c'est d'aller voir sur le terrain ceux qui gèrent la nature. Donc Stéphane Marchandeau en fait partie. Enfin, mm-hmm. Ce sont des scientifiques, des écologues, des agriculteurs, des forestiers, des écologistes. Et de décrire en fait des situations concrètes où des humains, avec leurs intérêts différents, leurs usages différents, sont aux prises avec des non-humains, donc en l'occurrence des lapins.
C'est ça.
Et ce qu'on essaie de montrer, en fait, c'est qu'on a tendance à toujours vouloir tout mettre dans des cases, à dire qu'il y aurait une bonne écologie ou de bonnes manières, en fait, de gérer ça et de trouver des solutions. Et en fait, quand on regarde concrètement comment ces écosystèmes humains-non-humains fonctionnent, on s'aperçoit que c'est très fragile, que c'est une affaire d'équilibre et que les humains, en fait, doivent en permanence s'ajuster à une nature qui réagit et s'ajuste aussi à eux.
Avec des relations, Stéphane Marchandeau, très conflictuelles, hein, on le disait tout à l'heure, entre l'homme et les lapins sauvages en particulier.
Oui, conflictuelles pour certaines catégories d'humains, parce que le lapin est quand même une espèce... Au départ, c'est un gibier, donc c'est l'espèce reine pour les chasseurs de nos campagnes, ou au moins était l'espèce reine pour les chasseurs de nos campagnes, mais en même temps, c'est une espèce qui est capable de faire beaucoup de dégâts aux cultures agricoles, donc plutôt honnie par le monde agricole et par les forestiers, donc il y a toujours cette bivalence.
Alors vous revenez justement dans la revue sur quelques-uns des épisodes majeurs, hein, des gros dégâts, énormissimes dégâts causés par les lapins. On va écouter un document justement de 1950 et qui nous parle de la catastrophe du lapin européen implanté à l'époque et même bien avant en Nouvelle-Zélande et en Australie.
Plusieurs essais d'introduction de lapins avait échoué au cours de trois quarts de siècle. Et c'est le jour de Noël 1859 qu'une cargaison de 24 de ces animaux débarquant à Victoria devait trouver son exceptionnel avenir. Et 30 ans plus tard, après une pullulation soudaine, était édictée la première loi pour sa destruction. Des millions de livres sterling ont été dépensés, des centaines de milliers de kilomètres de clôture dressés, des centaines de millions de lapins détruits.
Voilà, sur un milliard, je crois, de lapins, hein, Stéphane Marchandeau, à l'époque. Hein.
Oui, avec des mortalités derrière, quand on a commencé à le réguler en introduisant le virus de la myxomatose, de l'ordre de 90-95%. Donc ça donne une idée de...
Quasiment un milliard. Que ça a été, quasiment un milliard. Et notre linguiste Bernard Cerchilini qui a noté pullulation.
Oui, pullulation, j'ai noté. Voilà l'histoire de ce mot, intéressant.
Ce mot n'est pas dans le dictionnaire non plus.
Je ne sais pas.
Votre avis? Ouais. Mais vous l'avez bien aimé en tout cas.
Oui, beaucoup. Oui.
Apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé donc à la suite de ces épisodes? Donc on a volontairement introduit le virus de la myxomatose
pour
en se débarrasser des lapins.
En Australie en 1950, en France en 1952, donc dans les mêmes périodes, pour justement se débarrasser des lapins, parce qu'il y a toujours à cause de ces problèmes de dégâts qu'ils étaient capables de causer. À l'agriculture, mais aussi au milieu naturel en Australie, parce que comme en Australie, c'est une espèce introduite, il y avait Outre les dégâts à l'agriculture, il y a aussi les dégâts sur la régénération des espèces endémiques, végétales, etc. Donc il y avait quand même des impacts plus importants que ce qu'il y a chez nous.
Oui, il faut dire que le lapin de Garenne s'adapte très bien aux milieux les plus variés. Hein. Il est très, très rusé aussi.
On appelle ça une espèce très plastique. Alors, ouais. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, mais voilà, c'est une espèce très plastique capable de s'adapter à des milieux. Ouais. On en trouve dans les terres australes aux îles Kerguelen, donc avec des climats...
C'est vrai.
Pas loin de l'Antarctique, jusque dans le bassin méditerranéen. Donc c'est, ouais. Voilà.
Anne de Malraie, beaucoup de photos aussi, hein, il faut le souligner dans la revue, avec des documents magnifiques, hein, en noir et blanc en particulier. Quand on parle vraiment de l'abondance de ces lapins, là, il y a vraiment des photos qui en témoignent. Hein.
Oui, en fait, c'est une revue qui s'intéresse aussi aux représentations qu'on a de la nature. Mmh. Et du coup, qui fait intervenir des artistes contemporains et puis aussi des œuvres qui sont issues du fonds du Musée de la Chasse et de la Nature. Oui. Et puis là, en l'occurrence, je vois que vous regardez en fait des extraits.
J'ai des souvenirs d'enfance grâce à vous qui sont remontés à la surface quand je revois ma grand-mère tuer le lapin. Et là, vous avez exactement les documents photographiques.
C'est une revue qui s'appelle La vie à la campagne et qui était destiné en fait aux gentilshommes, enfin gentilshommes qui voulaient
devenir
propriétaires terriens, voilà, qui voulaient savoir comment s'y prendre, voilà. Et donc effectivement, on voit des images en fait que j'ai décidé de publier parce qu'elles montrent bien comment en fait en un siècle, ce qui est montrable et ce qui ne l'est pas par rapport à l'animal a complètement changé. Et on n'imagine absolument plus de voir des revues avec des romans photos qui montrent comment
usage, hein,
énucléer un lapin, et ce qu'on voit maintenant en fait ce sont des images volées des élevages où les conditions de vie de ces animaux sont catastrophiques, mais ça n'est plus montrable en fait.
Les images sont regardables, hein, je précise quand même pour ceux qui
auraient
peur d'ouvrir cette revue, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a juste un petit message de Delphine qui nous dit qu'elle est bénévole pour l'association White Rabbit qui œuvre pour offrir une vie de qualité aux lapins retraités des laboratoires et qui permet également de tordre le cou aux idées reçues sur les lapins, animaux de compagnie bien mal connus. Je crois que c'est le troisième animal de compagnie des Français, le lapin.
Oui, effectivement, il fait partie des NAC, c'est-à-dire les nouveaux animaux de compagnie. Ouais. Et en fait, il y a un malentendu, d'ailleurs, je crois, sur le lapin qui séduit beaucoup parce qu'il est tout doux, mignon, mais qu'en fait, c'est une espèce, si on regarde son éthologie, qui a un comportement de proie, donc qui déteste être soulevé de terre, qui ne se conforme pas du tout à ce qu'on attendrait de lui
Stéphane Marchandeau.
À la maison.
Non, juste, vous regardiez les images anciennes du lapin, là. C'est ça, une très belle scène là, du film de Jean-Louis Huber, Le Grand Chemin, où on voit Anémone qui dépouille un lapin et le petit citadin qui ouvre des grands yeux effarés en voyant la scène. Voilà,
qui lui baisse le pyjama, je crois.
C'est exactement son
expression. Il y a un article, il y a tout un dossier sur Chaud Lapin. Alors ça, c'est intéressant aussi, que l'érotisation du lapin, alors ça vient d'où, franchement?
Alors peut-être je vais me tourner vers monsieur...
Cerchilini.
Voilà, c'est étymologique, en fait, cette idée de la sexualité débordante du lapin.
Conin.
Voilà, exactement. Ouais, ouais.
Et... Lapin, c'est Conin, un ancien français. Qui a donné après la touffe de poil, et la touffe de poil a désigné le sexe féminin.
Voilà. Ouais. Et l'art contemporain s'est saisi très largement de ce motif, dont si vous procurez la revue, vous pourrez voir quelques représentations.
Qui là aussi sont très regardables. Il y a toute une galerie de museaux, alors ça c'est très très drôle. Hein.
Ouais. Alors ça c'est une artiste en fait qui est allée dans les concours entre éleveurs qui viennent exhiber leurs plus beaux spécimens et elle a fait des photos très très cadrées sur les museaux qui du coup quand on les juxtapose
prête
un peu à confusion effectivement. C'est
absolument, un peu d'érotisation là aussi dans ces clichés. Et puis si vous les préférez à la moutarde, au pruneau ou au lard, eh bien vous aurez également des indications dans la revue. Voilà, c'est donc le 8e numéro de Bille Baude. C'est sorti donc avec la Fondation François Sommier et Glénat.
Oui.
On peut le trouver où d'ailleurs?
Alors on peut l'acheter au Musée de la Chasse et de la Nature, dont je vous conseille la visite par ailleurs.
Mais pour ceux qui ne sont pas à Paris?
Alors pour ceux qui ne sont pas à Paris, dans les librairies ou sur Internet. Voilà.
Et bien voilà, donc c'est ce 8e numéro qui vient de paraître. Un autre ouvrage vient de paraître, c'est Une mémoire infaillible et c'est notre troisième sujet dans le club dans un instant.
Upside down.
Saïdan avec Diana Ross dans notre club des Têtes au Carré, avec une grande discussion sur la façon de tuer le lapin autour du micro. Visiblement, il y a beaucoup de souvenirs d'enfance qui remontent. Bernard Sarkinini, c'est votre cas d'ailleurs.
Ah oui, oui, ah, malheureusement.
On a tous été traumatisés par nos grands-mères et nos grands-pères. Hein.
La mienne m'a appris à tuer un lapin, à le dépiauter.
Et le fameux coup du lapin.
Et le fameux coup du lapin, bien sûr.
Allez, autre sujet plus réjouissant, une mémoire infaillible. Briller en société sans sortir son smartphone autour d'un lapin à la moutarde, par exemple, si on veut. C'est une édition premier parallèle. Sébastien Martinez, vous en êtes l'auteur avec Elisa Wenger. Vous êtes premier champion de France de mémoire, c'est ça?
C'est ça, oui, oui.
C'était en quelle année?
C'était
il n'y a pas longtemps, oui, c'est ça.
C'était en octobre, en novembre, pardon.
On en avait parlé autour de ce micro. Oui. Vous étiez en plein préparatif.
C'est ça, ouais. Oui, oui.
Comment ça se passe un championnat du monde de mémoire?
Alors, il y a toujours 10 épreuves. Et, alors, les premiers championnats du monde, c'est en 91, hein, ça, il y a 25 ans. Et il y a plein d'épreuves comme sur des visages et des noms, des trombinoscopes ou d'autres sur des listes de chiffres, des listes de mots, des cartes à jouer, dame de cœur, trois de pique. Et il faut les mémoriser le plus rapidement possible. L'idée, c'est toujours d'aller le plus vite en un temps donné.
Ouais. Ça se fait en public?
Vous pouvez venir, mais c'est vrai que c'est un silence vraiment.
Oui, quand même, on respecte votre réflexion. Ça doit chauffer sous le capot quand même, hein, j'imagine, pour vous.
Souvent, on a des casques anti-bruit. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'attention et c'est un entraînement, par rapport à cette attention, cette capacité à se concentrer.
Il y a une dépense d'énergie importante dans ces moments-là. Oui, vous sentez vraiment que le cerveau, là, est un peu en surchauffe.
Pour mes premiers championnats en 2014, j'y suis allé un peu sans beaucoup de préparation. Ouais. Et là, j'ai vraiment pris conscience que c'était un sport. Parce que c'était sur 2 jours. Et là, à la fin de la première journée, j'étais épuisé. Ouais. Un peu comme quand je faisais du sport et à bout de souffle, et ma capacité à faire des associations était 5 à 10 fois plus lente qu'à l'habitude.
Donc vous êtes entraîné comme un grand sportif pour l'année suivante, justement.
J'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement et travailler. Il y a deux aspects, il y a l'aspect technicité, rapidité, et après il y a l'aspect vraiment endurance.
Elisa Wenger, donc vous avez suivi les stages de Sébastien, c'est ça, parce que vous avez écrit le livre ensemble.
Oui. Hein, oui.
Donc pour vous, c'était vraiment tester, éprouver et valider avant de pouvoir écrire. Hein.
Exactement. Oui. Ouais. Moi, j'ai été assez surprise par la promesse de Sébastien, et en fait, j'ai suivi une journée de stage et il m'a convaincue très rapidement, notamment en fait sur tout ce qui est géographie. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec la géographie.
C'est-à-dire spatialiser les choses.
Je suis nulle. C'est-à-dire, je sais à peu près, si vous voulez. Où se trouvent les... Oui, à associer des formes avec des pays, c'est ça. Et des villes, voilà. Et au cours du stage, on a travaillé l'Afrique de l'Est. Et en fait, en se racontant une histoire, je connais les pays du littoral d'Afrique de l'Est.
Ah oui, c'est ça. En fait, il faut se raconter des histoires. Par exemple, vous avez un exemple autour du système solaire, qui est très chouette d'ailleurs, je trouve, pour essayer de voir le bon alignement des planètes par rapport au Soleil. Alors, racontez-nous cette histoire, Sébastien Martinez.
Il y en a plusieurs, et là, dans le livre, je raconte, il faut bien imaginer avec ces 5 sens. En fait, il y a un ingrédient magique pour pouvoir inventer une bonne histoire. Moi, j'aime bien, c'est le sel. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut bien imaginer avec ses 5 sens, première étape. Deuxième étape, on ajoute notre flamme d'enfant. D'accord? Et troisième étape, on crée du lien. Donc maintenant, nos planètes du système solaire, on va commencer par le Soleil, qui est l'étoile, d'accord? Donc imaginez vraiment une boule de feu. Et comme on est des enfants, on va tous imaginer qu'on a 8 ans, on va imaginer que c'est une boule de feu qui marche. D'accord? Qui marche, elle court, et là, elle tombe. Elle tombe, et donc elle se fait mal au genou. En se faisant mal au genou, qu'est-ce qu'elle va mettre?
Du mercurochrome.
Voilà. Donc on va mettre du mercurochrome, très bien.
Ouais. Première planète, Mercure.
Voilà, première planète, Mercure. Et après, donc, ce mercurochrome, elle va voir une personne Vous êtes d'accord?
Ouais. Enfin, qui vous pose le mercurochrome?
Voilà, c'est ça.
C'est une belle infirmière.
C'est une infirmière. C'est ça, hein. Et cette personne, c'est une belle infirmière qui est jolie, donc Vénus.
Vénus.
D'accord. Et sur son tablier, qu'est-ce qu'elle a? Elle a plein de terre. Vous voyez, elle a un peu, en fait, elle a un autre métier à côté, elle est agricultrice. Et donc, elle a plein de terre. Et vous l'imaginez? Vous
elle
l'imaginez?
Élève des lapins.
Ah, mais c'est compliqué, votre
peut...
truc.
Ça peut paraître, un peu loufoque. Mmh. Et c'est ça, pour mémoriser, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est logique. D'accord? Quand vous avez déjà vécu une information, vous êtes capable de vous en rappeler. Et un autre chemin pour pouvoir mémoriser, c'est l'imagination. Oui. Et là, vraiment, dans ce livre, ce que j'invite les auteurs, c'est vraiment à utiliser cette deuxième branche, oui. Cette imagination.
Et ça fonctionne très, très bien.
C'est redoutable. Et moi, oui. Je suis ingénieur de formation et c'est pas du tout ma spécialité. Et je l'ai vraiment musclé depuis 2009.
C'est ça.
Je l'enseigne.
Donc on peut aller après aux autres planètes en inventant et en tirant le fil de cette histoire. Et effectivement, le lendemain, on s'en souvient extrêmement bien parce que ce récit, il nous emmène justement sur la bonne voie. Hein.
C'est ça.
Ouais. Daniel Tammet, vous le connaissez ?
Oui.
Évidemment,
oui.
Hein, on l'a reçu de temps en temps dans cette émission. Alors lui, il a été champion du monde sur les décimales de pi, hein, c'est ça ?
Oui, il a eu un record. Hein, alors, il a 27 ou 37 000.
Ouais.
Mais il a été battu depuis.
Après le zéro.
Oui, voilà, bien sûr, 37 000 décimales après le zéro. Mais aujourd'hui, le record, il est à 67 000.
Ouais.
Et techniquement, c'est facile, on est tous capables de le faire. C'est juste un investissement en temps, mais vraiment. Hein.
On va l'écouter justement, Daniel Tammet, à l'occasion de ce concours, comment il l'a vécu précisément.
Le but recherché est de se souvenir du nombre pi, de 22 500 chiffres après sa virgule, et de les réciter en public, en présence d'observateurs qui vérifieront l'exactitude de l'énoncé du début à la fin.
Daniel pense se souvenir des 22 500 premiers chiffres dans leur ordre précis.
1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4, 2, 3, 6, 4, 8, 0, 8, 8, 1, 0, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 4, 6, 9, 0, 8, 5, 7, 7, 8, 0, 6, 9, 9, 5, 5, 7, 1.
2 heures plus tard, il en est à 10 000 chiffres.
Voilà. C'est affreux, cette histoire. Et surtout qu'il n'y a pas de logique, là. Il ne peut pas se raconter l'histoire du système solaire, parce que là, on n'en finit plus, Sébastien Martinez.
Et pourtant, si, c'est le même principe. On utilise nos 5 sens. Et chaque chiffre. Et alors, c'est un athlète, enfin, il a les mêmes outils que les athlètes. Il a associé à chaque chiffre une image. Et par exemple, moi, pour tous les chiffres de 0 à 99.
C'est-à-dire qu'il a associé 22 000 images ?
Alors, pas 22 000.
Comme autant de décimales ?
Alors, du coup, chaque image, en général, c'est 2 chiffres.
D'accord.
Alors, lui, je crois que dans son système, c'est 4 chiffres.
Ça fait que 11 000 images, bon.
Voilà,
d'accord.
C'est ça.
Facile à retenir. Elisa Wenger.
Non, mais en fait, Daniel Tammet, si je me souviens bien, il associe les chiffres. Il a écrit un livre qui s'appelle Je suis né un jour bleu et il associe les chiffres aux couleurs,
absolument.
En fait. Donc, c'est assez particulier.
Ouais. Mais là aussi,
et puis,
il est
Asperger. Donc, il a aussi des capacités particulières.
Ouais. Bernard Cerchellini.
Oui, c'est ce qu'on appelait dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, les arts de la mémoire. Il y a des techniques pour mémoriser. Et on parlait tout à l'heure de la lecture du livre et de l'ordinateur. Le livre est beaucoup supérieur pour ça. Très souvent, on se souvient quand on a lu telle chose en haut d'une page à droite.
La mémorisation.
Alors que l'ordinateur, c'est quand même le retour au rouleau, c'était avant le livre. Il y en a du mal à mémoriser pour ça.
Vous avez le sentiment vraiment que là, depuis l'arrivée d'Internet, justement, on a perdu beaucoup de capacités mémorielles.
Il faut les rebâtir. Mais nous avions l'habitude d'une mémoire spatiale, spatialisée. Mmh. Et le livre était pour cela un très bel outil.
Ouais. Anne de Malraye.
Oui, je suis très intéressée par ce que vous dites et c'est drôle parce que ça va à l'encontre de l'idée selon laquelle on n'aurait plus tellement besoin en fait d'exercer notre mémoire parce qu'on a
avec les outils justement.
Voilà,
qui existent,
tout est accessible, toutes les données sont accessibles très facilement. On n'a plus besoin de se souvenir de rien, même de là où on habite à la limite.
C'est vrai. Alors pour moi, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, c'est mais à quoi ça sert de faire tout ça? Et pour moi, il y a vraiment deux intérêts pour s'entraîner avec cette mémoire. Premier intérêt, c'est d'être plus autonome, indépendant, parce que c'est sûr que moi, quand j'ai un nouveau numéro de téléphone à mémoriser, je prends mon smartphone et je le mets dedans.
Plus personne se souvient maintenant des numéros de téléphone,
c'est
quasiment.
Clair. Mais par contre, il y a certaines informations, faut se dire, tiens, est-ce que j'ai besoin de la mémoriser ou pas? Et donc, je suis libre de choisir, ça, je veux le stocker, ça, je veux l'externaliser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vraiment en termes de bien-être. Comme un sportif, quelqu'un qui va faire un footing tous les jours. Pourquoi, une fois par semaine, quelqu'un va courir? Parce qu'il se sent bien dans le reste de sa semaine. Et là, ça, c'est exactement la même chose. Quand je m'entraîne, quand les personnes s'entraînent à mémoriser, on se sent bien mieux.
Ouais. Et c'est vraiment cette endurance dont vous témoignez aussi. Hein. C'est ça, c'est vraiment ce travail aussi, comme un muscle.
Oui, c'est ça, comme un muscle. Et c'est ce que et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le parallèle entre ces stratégies et la réalité. C'est pour ça que je l'enseigne à des étudiants qui sont en médecine ou au bac. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est voir qu'on n'a aucune limite. Après, la seule limite, c'est savoir où on veut aller.
Après avoir lu votre livre, je peux retenir 22 000 décimales hein.
Ça prendra un peu de temps, mais...
Ouais. Il faut que je m'y mette tout de suite, alors. Ça s'appelle « Une mémoire infaillible, briller en société sans sortir son smartphone hein. ». C'est aux éditions Premier Parallèle, livre que vous avez écrit avec Elisa Wenger. Allez, avant de se quitter, on part à Nancy, retrouver Véronique Bronner qui est avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet CNRS pour le Festival du film de chercheurs co-organisé par l'Université de Lorraine, justement. Et ça commence le 31 mai prochain jusqu'au 5 juin. Alors, c'est vrai qu'on aime bien saluer ce rendez-vous chaque année. Dans le principe, vous pouvez nous le rappeler, Véronique Bronner, quel est-il?
Alors, le principe, c'est une compétition de films de chercheurs. Les chercheurs sont très impliqués dans la réalisation et l'écriture du film. Donc, on a reçu 115 films cette année. 11 sont sélectionnés pour la compétition. Et autour de cette compétition, on en profite, comme on fait venir les chercheurs et les réalisateurs, pour faire un événement un petit peu festif et culturel et scientifique, bien entendu. Et cette année, on a choisi comme thématique l'alimentation. Et notre titre, c'est « Avoir et à manger ». Voilà. Donc on décline ça avec des soirées autour de l'alimentation, sur la santé, sur la sociologie de l'alimentation, le dégoût alimentaire, etc. Et puis on a des expositions qui sont faites avec les gens de Vendeuve, les associations et des scientifiques. On a également des spectacles sur l'alimentation, parce que pour rester dans le thème, et on n'attire pas les mouches avec des humains. Donc voilà, on a une mini-fête de la science, entre guillemets, bien entendu, ou modestement parlant, sur l'alimentation à Vendeuve, au parc du Charmois, dans un lieu très beau, et où on peut venir décontracté, parler avec des chercheurs tranquillement.
Bien, ce sera donc du 31 mai au 5 juin prochain, c'est donc dans la région nancéienne, et on peut avoir tout le programme sur filmdechercheurs.eu, le lien, et bien sûr sur le site de la Tête au Carré. Merci Véronique Bronner.
Merci. À bientôt.
À bientôt, bon week-end à vous.